Bonjour et bienvenue sur Radio Campus 88.3. Nous sommes en direct de la médiathèque d'Orléans ce matin pour un nouveau numéro de Médiathèque On Air, puisque bah oui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est notre rendez-vous mensuel ici à la médiathèque le samedi matin à partir de 11h sur Radio Campus. Et puis autour de la table en fait, on va saluer nos invités et nos hôtes. Bonjour Olivia Bellisio, vous êtes responsable de la médiathèque centrale. Merci d'être là avec nous. Aurore Moncomble et Rémi Bonnet, vous vous occupez du fonds adulte, du fonds jeune adulte de la médiathèque. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour parler de littérature jeune adulte et du manga. Et pour ça, on reçoit également Charlotte Joriot, vous êtes mangaka, bonjour.
Bonjour.
Et puis, vous allez aujourd'hui, en fait, proposer une rencontre, un atelier manga à 14h ici à la médiathèque d'Orléans. On va écouter un petit morceau de musique et puis on revient juste après en fait pour le reste de notre émission. On écoute Steel Pulse avec Five Years, c'est pour vous mettre en jambe avant d'aller à la médiathèque Maurice Genevoix cet après-midi voir le film de Philippe Découfflé qui réunit musiciens, chanteurs et danseurs en hommage à David Bowie. Un concert enregistré le 7 mars 2015 que vous pouvez voir à 16h tout à l'heure à la médiathèque. Et là, c'est une reprise de Five Years de David Bowie. Crying, God wept and told us Earth was really dying. Right, so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys and toys and electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. Everything in there, and all the fat skinny people, and all the tall shot people, and all the nobody people, and all the somebody people. I never thought I'd meet so many people. Hey, a girl my age went off her head, hit some tiny children. The black hadn't pulled her off, I would think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed the stair to the wheels of a Cadillac. A cop knelt down and kissed the feet of a priest, and the queer threw up at the side of the bed. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling, waving, and looking so fine. Don't think you knew you were in this song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of more, I wanted to get back there. Your face, your race, and the way that you talk. Beautiful, I want you to walk. We got 5 years stuck on my eyes. À l'instant, c'était Steel Pulse avec Five Years, une reprise de David Bowie. Eh bien, je reçois en fait Rémi Bonnet, enfin c'est plutôt eux qui me reçoivent ici à la médiathèque d'Orléans, et Aurore Moncomble, Olivia Bellezio également en fait, pour parler de ce fonds jeune adulte que vous avez créé. C'est un fonds qui est récent. Parlez-moi un petit peu de la création de ce fonds, pourquoi vous l'avez créé ?
Alors, ce fonds, ça vient d'une idée en 2020-2021 avec le responsable de la médiathèque des politiques documentaires. Et en fait, l'idée, c'était de créer un coin vraiment pour ce public, on va dire 15-25 ans, qui est toujours entre deux étages, parce qu'à la médiathèque, le troisième étage, c'est pour la jeunesse et le rez-de-chaussée, c'est pour les adultes, on va dire. Et c'est vrai que quand on est entre ces deux âges, les gens ne savent pas trop où aller et c'est un peu un public qu'on perd. C'est un public qui vient avec ses parents quand il est enfant. Et dès qu'il arrive aux études, il se sent un peu perdu. Le troisième étage ne lui correspond plus trop. Le rez-de-chaussée, il ne sait pas trop où aller. Et au final, ils se désinscrivent, les gens ne viennent plus. Et on voulait vraiment créer un espace pour ce public-là, pour qu'il reste. Et il y a énormément de littérature pour ces jeunes. Donc, les faire venir en bibliothèque.
C'était en fait trouver leur place au sein de la médiathèque, qu'ils aient pu cette sensation d'être entre deux endroits qui soient plus séparés en deux. Et du coup, ça nous semblait important aussi qu'il y ait cette représentation physique de l'espace dans la médiathèque et qu'ils aient du coup un message fort en disant « on vous accueille, vous avez votre place à la médiathèque aussi ». Et du coup, c'était important de les accompagner parce que finalement, c'est ça aussi la littérature, ça accompagne tout au long de la vie. Et du coup, voilà.
Et donc, il y a un espace particulier où se trouve-t-il ici dans la médiathèque centrale, hein, la médiathèque Gambetta ?
Ah, il est au rez-de-chaussée. On a décidé de le mettre au rez-de-chaussée où il y a les collections adultes pour que les gens qui viennent, on vieillit tout au cours de la vie. C'est un peu leur nouvel espace désormais, maintenant qu'ils sont devenus jeunes adultes. Et... voilà, on l'a mis au rez-de-chaussée, mais séparé des collections adultes.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qui constitue ce fonds jeune ? Il y a des BD, des mangas, des romans, des jeux vidéo ? Est-ce qu'il y a des DVD, des CD ?
Il y a des romans, des BD, des mangas, effectivement. On a vraiment essayé d'axer ça sur du multiformat, pas limité simplement à des romans. On voulait vraiment ouvrir à tous les champs. Et aussi une vision sur l'écologie, l'identité, les orientations sexuelles aussi. Vraiment des documents qui parlent de messages forts, parce que c'est un moment dans la vie où on se pose toutes ces questions et où on a besoin de réponses. Donc du coup, c'est à cet endroit qu'on voulait représenter le mieux cette représentation.
Le fond de base, il part sur les livres, les romans, les fictions young adultes. Donc, tout ce qui est, par exemple, ça part d'Harry Potter, c'est pas vraiment Harry Potter. Mais on n'a pas voulu se contenter des romans, fictions young adultes. On a voulu vraiment faire un espace qui regroupe tout l'univers de la culture young adulte, jeune adulte. Donc, voilà, les documentaires sur les questions de société. Les DVD aussi. Normalement, il n'y avait que des DVD au quatrième étage à la médiathèque. On a descendu des DVD jeunes adultes dans cet espace. On a mis des magazines, des livres pour l'orientation post-bac. On a enlevé certaines choses. Par exemple, on s'est rendu compte que les textes lus, c'était vraiment pas emprunté par ce public. Donc, on a testé, on les a enlevés. Les CD, pareil. La musique, plus trop empruntée par les jeunes adultes. Mais voilà, on essaye, en partant des fictions young adults, d'être dans tout l'univers des...
D'ouvrir vraiment à tous les champs. D'ouvrir vraiment à tous les champs.
Alors, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, justement, pour amener le public jeune adulte sur ces collections ? Est-ce que la lecture, elle peut se faire également en ligne ? Alors, on essaye, bien sûr, en faisant un coin young adulte dans une médiathèque, d'extirper un petit peu les jeunes des écrans, j'imagine. Spécifique en fait pour les jeunes adultes ou même des ateliers de pratique artistique ou d'éducation aux médias comme c'est le cas aujourd'hui, il y a des ateliers de pratique qui sont proposés.
Par exemple pour les jeux vidéo ne sont pas encore arrivés à la médiathèque centrale, mais la médiathèque de Maurice Genevoix a ouvert un espace jeux vidéo il y a 2 ans, Donc ça vise en quelque sorte aussi les jeunes adultes comme les enfants, ou même les adultes, ça peut viser un peu tout le monde, mais ça permet d'organiser quand même les actions culturelles avec ces publics-là. Nous, à la médiathèque, aujourd'hui, on fait une journée vraiment spéciale jeunes adultes. C'est la première qu'on organise vraiment du matin au soir, on va dire. Mais sinon, oui, voilà, c'est compliqué de faire venir ces publics-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut développer. Il faut voir comment les toucher, passer peut-être par les lycées, la fac.
Olivier Bilizio.
Peut-être juste en rajouter que la question des réseaux sociaux, effectivement, elle arrive tout doucement dans les médiathèques. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel, de manière générale, les bibliothécaires sont pour lequel on est toujours très à l'aise. On s'est rendu compte depuis très longtemps que, évidemment, la page Facebook des bibliothèques, c'était plutôt pour les publics de la génération d'au-dessus, on va dire. Voilà. Donc là, on est en réflexion sur, en effet, la question de l'ouverture d'autres réseaux. On a parlé TikTok, on a parlé d'Instagram, où en effet, voilà, ça, c'est aussi une stratégie globale de communication. On est établissement public, on est établissement municipal. Voilà. Donc on réfléchit aussi à faire les choses de manière à la fois institutionnelle, puisque c'est la mairie d'Orléans, et puis suffisamment... intéressée, ouverte et qui donne envie pour que justement nos jeunes puissent avoir aussi cette information-là.
Alors cet après-midi, vous recevez Juliette Evenot à 15h30. Juliette Evenot, elle est autrice de romans young adultes et particulièrement en fait d'une trilogie, c'est ça en fait. Il y a plusieurs tomes de Mille Pertuis en fait.
Alors c'est une duologie.
Une duologie.
Là, elle a sorti en août, le 31 août. Ça fait tout juste quelques
trois
temps,
semaines.
Trois semaines, qu'elle a sorti sa nouveauté, Mille Pertuis. Et du coup, c'est le livre 1, La sorcière sans nombril, qu'on découvre en ce moment. Et du coup, c'est vraiment un univers de magie avec un regard vraiment différent sur cette magie. On a l'habitude de J.K. Rowling avec son école de sorciers, ses baguettes. Et ben là, pas du tout. C'est pas du tout le cas. Vous attendez pas à de la belle magie. C'est vraiment une magie très corporelle où on utilise tous les fluides du corps. Voilà, c'est vraiment un univers particulier. Mais ce qui est très intéressant dans le travail d'écriture de Julia, c'est qu'elle nous y emmène avec une facilité déconcertante et il y a une poésie dans ces textes qui est juste sublime. Et du coup, on est ravis d'accompagner ces personnages jusqu'au bout dans cette aventure.
Alors, est-ce que pour la littérature young adulte, on peut parler d'un genre littéraire à part entière ? Est-ce que ce sont essentiellement des romans en fait qui sont proposés également dans cette littérature et souvent ils sont écrits à la première personne. Il faut que les ados, les jeunes adultes puissent s'identifier en effet aux héros, au narrateur ou à la narratrice. Et puis on y retrouve principalement de la fantaisie en fait, ou bien il y a d'autres choses qui sont proposées.
Alors, pour moi, c'est vraiment un fond à part entière, effectivement, et qui a ses propres codes. En fait, il s'affranchit totalement des codes qu'on peut connaître en littérature et il s'affranchit de ça et il crée ses propres codes et il investit l'espace comme ça. Les jeunes adultes se retrouvent dans ces codes-là parce qu'il y a vraiment une connaissance commune de signes, de symboles, tout ce qui est pop culture, on va avoir des références communes, et c'est la force de cette littérature. Après, sur le côté écriture à la première personne, pas forcément. Il y a des livres qui vont pas du tout prendre ce parti-là et qui vont être tout aussi percutants. Je pense notamment à une série de livres de... j'ai perdu l'auteur, de Tissier Gulti, où on est dans un univers comme nous, vraiment réaliste, et où on va parler de justice, parce qu'il y a une application qui a été créée où les gens peuvent voter via cette application pour relâcher des détenus. Une fois que le détenu est relâché, les gens peuvent lui faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent le tuer, enfin voilà, en toute impunité. Et du coup, c'est glaçant de vérité. Et c'est pas forcément à la première personne. C'est, on suit vraiment une chasse à l'homme et c'est une trilogie dans laquelle on est. On n'a pas de moment de répit, quoi.
C'est vrai que dans l'univers young adult, on va dire dans le thème, dans ce style, il y a beaucoup de dystopie, beaucoup de mondes imaginaires, mais ils sont toujours reliés à notre monde à nous, dans le sens où ça questionne toujours, c'est toujours des questions de société, c'est toujours des remises en question de la façon dont notre société est organisée.
La quête d'identité également.
La quête d'identité, un
savoir
peu.
Savoir se trouver qui on est.
C'est ça, c'est toujours un regard différent sur la société et sur les codes qu'il y a dans la société.
Et puis également, vous le disiez tout à l'heure, des livres entre guillemets érotiques en fait, qui permettent peut-être un apprentissage de la sexualité ou au moins en fait un questionnement à ce sujet-là pour les jeunes adultes. Et puis, ce sont également des romans qui sont souvent adaptés au cinéma ou en série télévisée, ou c'est l'inverse en fait, la série qui redevient un roman en fait. Et ça, bon bah Harry Potter bien sûr en fait en est l'exemple maximum, mais il y a d'autres exemples, notamment La Servante Écarlate, Les Sangs, où on va pouvoir retrouver justement une littérature qui est adaptée d'une série en fait.
C'est ça, le format young adult des livres, c'est souvent des séries. Donc ça peut être 2 tomes, 3 tomes, 4 tomes. Des fois, on a des préquels qui sortent plus tard. Et au final, ça s'adapte très, très bien avec les séries télévisées qui marchent très bien aujourd'hui. Et au final, on se rend compte que...
Il y a un jeu de renvoi, en fait, constant entre, effectivement, les livres, l'adaptation. C'est très intéressant comment chaque univers se nourrit de l'autre.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, hein, l'intérêt du young adult ou du coin young adult, de l'espace young adult dans les bibliothèques, c'est en effet de fidéliser les jeunes adultes et particulièrement d'encourager la lecture chez eux. Alors, depuis déjà quelques années, le manga, en fait, a littéralement explosé en France et permet, en fait, justement, d'attirer davantage les jeunes dans les médiathèques. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, c'est une bonne porte d'entrée vers les médiathèques parce que la production de manga en France est énorme. Il y a énormément de choses. Ça attire beaucoup les jeunes, de plus en plus, plus que la bande dessinée. Je pense que la lecture chez les jeunes, manga est passé devant. Et voilà, c'est un peu notre mission aujourd'hui de ne pas laisser le manga de côté et de vraiment développer ses fonds. Nous, à l'espace jeune adulte, on a vraiment un fonds manga aussi qu'on essaye de développer. On se rend compte que bon, c'est des mangas qui se rapprochent des mangas adultes classiques, on allait dire des shonen. Mais oui, c'est quelque chose sur quoi il faut miser parce qu'il y a une énorme demande. Et les gens ne cherchent pas forcément les mangas les plus connus, les One Piece, les Dragon Ball. Ils cherchent des histoires originales. Et sur ce support, c'est vraiment le support manga qui est recherché.
Et vous, à l'acquisition, par exemple, vous n'allez pas acheter l'intégralité de la collection, mais peut-être juste les premiers numéros pour donner envie aussi de découvrir davantage.
C'est ça le problème des fois, enfin pas forcément un problème, mais les séries sont souvent à rallonge. On sait quand elles commencent, on ne sait pas quand elles terminent. Donc oui, on commence les séries, on y va. Et après, voilà, sur le long terme, on voit si on va jusqu'au bout. Si ça ne trouve pas son public, ça peut nous arriver de nous arrêter. Si on nous demande de continuer la série, on va racheter la suite. On fait vraiment au cas par cas.
Je voulais rajouter aussi, dans l'histoire des bibliothèques, il y a un certain nombre de « mauvais genres » entre guillemets qui ont petit à petit trouvé, ce que disait Rémi, leur place, leur légitimité. Le manga, en effet, aujourd'hui en bibliothèque, c'est assez une évidence. Il y a quelques décennies, on se posait la question du policier, de la science-fiction, voire de la bande dessinée plus traditionnelle. Donc c'est effectivement notre travail d'être toujours à l'écoute de ce qui est réellement existant et qui fonctionne dans le monde éditorial et ce qui va en effet pouvoir toucher et ramener des publics.
Et puis pour le manga en particulier, peut-être qu'il a été éloigné des espaces enfants aussi parce qu'il peut heurter la sensibilité des plus jeunes parfois.
Ce qui est intéressant avec le manga, c'est qu'il aborde tous les sujets et que du coup, c'est dommage de juste le cantonner à la jeunesse. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'ouvrir aussi les champs possibles du manga parce qu'au Japon, finalement, on touche à tous les sujets Et on parle de tout, aussi bien de la cuisine que de l'orientation sexuelle, que de la vieillesse aussi. Il y a des mangas sur la vieillesse qui sont très beaux aussi. Et du coup, ça serait dommage de juste se cantonner à la jeunesse.
Et puis, avant d'interviewer Charlotte Joriot, hein, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui pour une rencontre hein, à 14h à la médiathèque, le manga, c'est un fabuleux vecteur culturel. Alors, vous en parliez, Aurore. C'est une véritable culture globale qui touche aussi bien à la narration graphique qu'à l'illustration. Et pour une médiathèque, j'imagine que c'est une chance, puisque ça permet de faire des propositions innovantes, pluridisciplinaires, comme vous le disiez, Aurore, en fait, autour de différentes thématiques. On peut parler d'art et d'histoire de l'art même. Moi, je vois un manga en fait où l'illustration ressemble vraiment à Mucha, en fait. On peut parler en effet d'éducation à l'image puisque souvent en fait ils sont développés dans les animés en fait et on peut justement avec le jeune public en fait parler de ce qu'on voit mais pas forcément enfin de ce qu'on voit n'est pas forcément ce qu'on ressent etc. Vous pouvez mener en fait vous votre travail de médiathécaire avec ce manga en fait également en fait un travail de soutien à la création puisque on en parlera sûrement avec Charlotte Joriot l'édition des mangas aujourd'hui en fait est quelque chose d'assez artisanal en France en fait. Artisanal, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui a de multiples petites maisons d'édition en fait que vous pouvez aller dénicher et soutenir, et ça fait partie également du rôle des médiathèques aujourd'hui. Donc c'est un média très complet, le manga, qui permet plein de choses. Et c'est pas Charlotte qui va nous dire le contraire. Vous êtes mangaka.
C'est ça.
Vous êtes dessinatrice passionnée de culture japonaise depuis très jeune. Comment tout ça a commencé pour vous?
Alors ça a commencé aux alentours du collège, je devais être en cinquième, quelque chose comme ça, et à l'époque il n'y en avait pas du tout, ou presque pas dans les CDI des mangas. J'ai vraiment découvert ça via les animés sur les chaînes de télé, et c'est via les animés comme c'était un petit peu connu comme Naruto, One Piece, Fairy Tail, que j'ai commencé à vouloir acheter les livres, et on était un petit peu, on va dire à l'époque, des marginaux. Les gens qui lisaient des mangas, c'était un petit peu les... Peut-être pas les gens exclus, mais ouais, les marginaux. Ceux qui avaient une passion un petit peu spéciale à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé. Tous les jeunes dans les collèges parlent que de manga. Et donc, ouais, j'ai commencé à connaître ça vraiment à l'époque où c'était pas du tout populaire. On était vraiment des petits groupes.
Et vous avez décidé de commencer le japonais à cette époque-là?
C'est ça. D'abord toute seule, puis après je suis partie, je me suis orientée au lycée Mono à Saint-Jean-de-Bray, où il y avait une classe de japonais. Et pendant 3 ans, j'ai fait LV3, japonais.
Et puis après, vous avez commencé à dessiner ou à vous lancer dans...
Je dessinais en même temps. Je dessinais en même temps. Je ne prenais pas forcément de cours. C'était à base de petits gribouillis dans des carnets. Je n'étais pas très, très forte à l'école, mais je n'étais pas mauvaise non plus. Mais... pareil, c'était un petit peu un truc aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus toléré maintenant. Je vois de plus en plus de professeurs que je rencontre dans les collèges qui sont en mode « Ah oui, mes élèves, je les laisse dessiner sur leur cahier, la créativité, tout ça. »
Oui, des clubs manga.
C'est ça, de plus en plus, ça, c'est trop bien. Mais bon, oui, à l'époque, c'était pas trop ça. Mais j'ai continué malgré tout, j'ai fait ma rebelle et ça m'a mené après le lycée à une école spécialisée dans la BD. Parce que c'est vraiment ça que je voulais faire.
La BD, mais c'était pas forcément que le manga.
C'était quand même vachement centré manga. C'est une école dont je citerai pas le nom car je veux encourager personne à y aller. C'était vraiment malheureusement une école privée que j'ai payé beaucoup trop cher pour ce que c'était. Enfin, que mes parents payaient beaucoup trop cher, et je les remercie, car en fait, il y avait une année d'échange dans une université japonaise qui m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai tenu là-bas les 2 premières années, vraiment pour faire cette année au Japon. Et c'est ça qui m'a ouvert beaucoup de portes après.
Alors, au Japon, c'était l'université de... Il y a une spécialité manga là-bas.
C'est ça. Alors, c'est une université... Alors, c'est plus l'équivalent en France d'un DUT. C'est une vieille université parce que c'est une université de filles, ce qu'il n'y a plus beaucoup aujourd'hui au Japon. Et en fait, cette université, elle regroupait plusieurs catégories qui n'avaient rien à voir avec le dessin. Donc, il y avait dentiste, puériculteur ou puéricultrice, je ne sais pas si on dit les deux, musicien et graphic designer avec option manga. Donc, ce qui fait que là-bas, je me suis inscrite en graphic design, ce qui est une matière dans laquelle je suis toujours absolument nulle. Mais il y avait une spécialité manga, donc je me suis mis en examen de fin d'année, spécialité manga. Et c'est passé.
Et puis alors, vous êtes restée au Japon.
C'est ça.
Et vous êtes devenue assistante d'un mangaka.
C'est ça, un de mes anciens professeurs s'est mis à son compte en tant que mangaka. Alors, l'idée reçue qu'on a sur les mangaka au Japon, c'est que c'est forcément des gens qui sont, avec des gros éditeurs comme Shueisha, Kodansha, etc. et qui doivent rendre des pages toutes les semaines et qui ont un rythme de dingue. En réalité, manga au Japon, ça englobe bien plus que ça. Ça englobe absolument tout ce qui est illustration en général. Et manga, ça veut limite dire dessin là-bas. Donc les mangas, être mangaka là-bas, on peut faire du manga traditionnel, comme on peut faire de la pub, comme on peut faire de l'illustration, des missions ponctuelles. C'est un petit peu comme le job d'un illustrateur. Sauf qu'il y a un style inhérent au Japon, qui fait que nous, on associe ça à manga. Mais en réalité, la personne chez qui je travaillais était un indépendant qui avait un éditeur très local. Et moi, je m'occupais de l'assister sur de la fiction qui consistait à populariser, médiatiser l'histoire de la région dans laquelle on était, la région de Gifu, en l'occurrence. Donc, on faisait l'histoire d'une petite fille qui voyageait dans le temps et qui racontait l'histoire des empereurs de l'époque, des samouraïs. Moi, je m'occupais principalement des décors et des trames. Donc, c'est les textures des vêtements et la couleur de peau des personnages, par exemple.
Alors, ensuite, vous rentrez en France, malheureusement, parce que c'est le Covid.
Exactement. Première fois après mon année scolaire, parce que mon année scolaire est finie, puis je reprends un visa, j'y vais, et là je me dis j'ai envie de bosser là-bas, vraiment. Donc j'y retourne sans un sou, sans logement, je me fais héberger par des gens très sympas qui viennent du temple bouddhiste du coin et qui me donnent un logement comme ça. Je suis logée avec une Sri Lankaise qui est dans la même situation que moi, mais elle veut pas vraiment devenir mangaka. Et me voilà partie, sauf qu'au bout d'un moment, je me retrouve bloquée par le Covid et je déménage à Tokyo. Donc je suis dans une petite chambre de 10 mètres carrés et je dois terminer un chapitre parce que j'ai réussi à me faire remarquer par des gens de Shueisha, donc Shonen Jump, pour ceux qui connaissent. Voilà, et donc
Grosse maison
d'édition au Japon. Et donc je suis suivie par ce qu'on appelle un tanto. C'est un peu un responsable éditorial, mais... Disons qu'il y a beaucoup de gens qui sont suivis par des tantos, donc ce n'était pas, on va dire, si exceptionnel que ça. Du moins, je ne me faisais pas d'illusions. Jusqu'au moment où, avec le Covid et tout, les affaires reprennent, et donc je peux voir cet éditeur en face. Et il me dit, droit dans les yeux, que de toute façon, je ne pourrais pas devenir mangaka au Japon, car je suis française. Et que les Français, ils restent en France. Et en soi, quand on y pense, c'est logique, il y a tellement de talents au Japon qui sont prêts à tout pour devenir mangaka. Pourquoi prendre quelqu'un qui parle moins bien japonais qu'un natif pour faire le boulot qu'un japonais pourrait très bien faire.
Alors, ça reste discutable.
Ça reste discutable, bien entendu, mais eux, c'est leur logique. Ils sont très attachés aux japonais pur Japon, ce qui pour nous paraît absolument impensable. Mais eux, c'est leur culture, c'est comme ça. Et donc, c'est la douche froide un petit peu. Et je décide de rentrer en France, du coup, pour me lancer en indépendante. Et tant pis. Tant pis pour le rêve japonais.
Mais par contre, en France, quand on est mangaka, on peut sortir des mangas, quoi.
Oui, absolument.
Voilà. Il y a beaucoup d'auteurs de mangas, il y a beaucoup de mangaka
beaucoup,
français.
Beaucoup, je ne dirais pas beaucoup, je dirais de plus en plus. Parce que justement, il y a des talents qui se sont un petit peu, avec les réseaux sociaux et avec tout ce qu'on fait maintenant, se mettre en avant, c'est plus facile. Les maisons d'édition ont bien compris que maintenant, il fallait privilégier le local. On a des talents qui ne viennent pas du Japon, qu'on peut publier en France. Il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, on le voit bien, quasiment toutes les grosses maisons d'édition françaises ont des créations françaises. Il y en avait avant, mais disons que c'était un petit peu plus rare.
Et puis, vous avez sorti Allegoria, qui est édité chez une maison d'édition française qui s'appelle French Mangaka.
Alors, je vais rectifier un peu ça, car ça a un petit peu changé entre-temps. Y a pas mal, du coup, avec le fait que le manga français émerge, pas mal de petites maisons d'édition qui ont popé, qui se disaient « Ouais, on va faire du manga français, ça va être super ». Sauf que avoir des idées, c'est super, avoir les moyens, c'est autre chose. Et donc, j'ai été repérée effectivement par French Mangaka quand je suis rentrée du Japon, très vite après être rentrée du Japon, parce que tout le boulot que j'avais fait avec mon tanto là-bas, bah, ça n'a pas servi à rien. Vu que j'étais sur Internet, etc., je me suis très vite fait repérer. Et donc, je suis partie avec eux. C'était une start-up, tout allait bien. Et au final, je me suis rendu compte que le fond derrière n'était peut-être pas très sérieux. Et donc, je me suis désolidarisée de cette maison d'édition pour aller vers une autre qui me paraissait beaucoup plus sérieuse. Et aujourd'hui, j'ai un suivi bien plus réglo des gens qui travaillent derrière. Pour vous donner une idée, par exemple, un petit peu des magouilles que c'était. J'avais pas de maquettiste. Donc le maquettiste, c'est celui qui fait les maquettes des livres pour les envoyer à l'imprimeur. Je devais tout faire moi-même, alors que j'ai pas cette formation. J'ai dû apprendre sur le tas. Je suis pas correctrice, donc l'orthographe, c'est pas non plus vraiment mon point fort. J'ai dû m'improviser à l'aide de certains amis qui l'étaient pas non plus. Donc relire 5 fois un manga, c'est pas très pro, quand on n'a pas les moyens derrière. Et j'avais pas de lettreur non plus. C'est la personne qui met le texte dans les bulles. Alors que ça, bah, ça enlève un boulot de fou. Et donc, du coup, c'est pour ça que le premier tome d'Allegoria a mis du temps à sortir et que le deuxième prend du temps un petit peu aussi. Mais voilà, entre-temps, donc, j'ai changé de maison d'édition. Et il va y avoir une réédition donc, de ce tome 1. Ce sera le même contenu, hein, il n'y aura pas de souci. Et le tome 2, du coup, et la suite de la série sera publiée avec une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Keep on Dream.
Allegoria, ça raconte quoi ? C'est plutôt un univers fictionnel, science-fiction ?
C'est un univers un peu post-apo, mais surtout fantastique, où on suit une jeune fille qui s'appelle Éléonore, qui rêve de sortir de son bunker dans lequel elle est enfermée depuis son plus jeune âge, car elle est sûre que dehors, malgré ce qu'on lui a dit, c'était pas la fin du monde et qu'il y a des gens qui vivent. Du coup, elle va sortir. Elle va se rendre compte que non seulement on lui a bien menti, tout va bien dehors, mais en plus on la cherche. Et on la cherche pour des raisons un petit peu farfelues.
Vous êtes une des premières femmes en France à être mangaka. Est-ce que la profession tente à se féminiser et comment justement on perçoit ça quand on est autrice, quand on est mangaka ?
En fait, j'ai jamais réellement pensé au fait que je sois une femme ou un homme quand je dessine. Au jour le jour, c'est assez facile à vivre. Évidemment, il y a des boys clubs dans le milieu. C'est indéniable. On se sent pas exclu, mais on se sent pas forcément intégré. C'est vrai que les filles, on va dire, dans le milieu, se font un petit peu plus discrètes, rien que sur les réseaux sociaux. Je trouve pas que les filles vont être celles qui s'expriment le plus ou qui vont sur la pub. On est plus dans notre monde, on est plus discrètes et plus entre nous, parce que justement il y a ces boys clubs et parce que on n'est peut-être pas assez mise en avant de temps en temps. Mais pour autant, moi dans mon métier, ça a jamais réellement été un gros problème. Quand un éditeur, je pense, recrute quelqu'un, il regarde pas si c'est une fille ou un garçon, il regarde avant tout son book. Et à aucun moment, dans ma maison d'édition, par exemple, on est évidemment une minorité de filles, il y a plus de gars auteurs, mais à aucun moment dans cette maison d'édition, je me suis sentie marginalisée ou discriminée de quelconque manière. Franchement, c'est pas trop une question, je pense.
Et vous vous êtes identifiée à des mangakas femmes C'est mon fils qui me souffle la question, hein, parce que moi, là, je commence à nager un petit peu. Hein. je ne connais pas l'intégralité de l'univers manga, vu mon vieil âge. Et tu me parles de Shinoko. Shinoko, c'est... Oshinoko.
Oshinoko, oui.
Qui est la créatrice de Demon Slayer, c'est ça ? Non ?
Non.
Non, je me plante. Mais c'est une femme aussi, en fait.
Oui. Voilà.
Ça fait partie de vos inspirations, en fait. Est-ce qu'il y a des grandes figures comme ça qui vous ont particulièrement...
C'est assez récent, Oshinoko, donc, et j'ai même pas encore fini totalement la série.
D'accord, ça c'est la série...
Un peu la série du moment.
La série du moment, exactement.
Mais pour ce qui est de mes inspirations, je dirais Posuka Demizu. C'est une illustratrice de base qui a été recrutée pour faire le manga de Promise Neverland. C'est quelque chose, pareil, qui est un petit peu post-apo dystopique. Donc j'aime beaucoup cet univers. Et puis elle, son trait est... Comment dire ? Quand on voit ses dessins, on sait que c'est elle. Ses colorisations sont très poétiques. Il y a beaucoup de rêveries, beaucoup de perspectives un petit peu déstabilisantes. Donc j'aime beaucoup. Et l'autrice aussi, dont j'ai oublié le nom, dans laquelle je me suis plongée dans l'œuvre il n'y a pas longtemps, qui a fait l'Atelier des sorciers. Incroyable. Le trait est d'une finesse, il n'y a quasiment pas de trame, beaucoup de textures faites à la main. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore. J'accroche plus à un style de dessin globalement qu'à un univers, même si ça va quand même vachement avec. Mais c'est aussi parce que je n'ai pas, malheureusement, avec mon métier, pas autant le temps de lire qu'avant. Et donc, je me plonge plus sur vraiment les séries qui m'attirent graphiquement direct.
Alors, vous disiez tout à l'heure, hein, le deuxième tome d'Allegoria est en préparation.
Absolument.
Et puis, il y a un autre projet sur lequel vous travaillez en ce moment.
Oui.
C'est un projet avec un YouTuber fan de Pokémon qui s'appelle Fildrong.
C'est ça.
Et qui vous a sollicité pour dessiner les aventures de Fifou et de la légende de Bidentron. Alors, ça, en fait, c'est une nouvelle aventure pour vous.
Alors, ça fait déjà un an maintenant que je la dessine. Je viens de finir le premier tome, là, il y a un mois. Donc oui, c'est un YouTuber que je suivais depuis longtemps. Il parle de stratégie autour des jeux Pokémon, de base. Et lui, son délire, c'est un petit peu de jouer à Pokémon, mais avec des règles stupides. Comme par exemple, quand ton Pokémon est KO, bah, c'est comme s'il mourait, tu ne peux plus le réutiliser. Tu ne peux attraper qu'un seul Pokémon sur chaque route. Ça donne un petit peu des parties de jeux vidéo, en quelque sorte, avec beaucoup de rebondissements. Qui ont créé autour de ce youtubeur ce personnage donc, qu'il incarne dans les jeux, qui s'appelle Fifou. Et il avait ce projet d'en faire un manga, de prendre une de ses aventures autour d'un jeu pour en faire un manga. Et un jour, bah, pareil, grâce aux réseaux sociaux, il a repéré mon travail, on a discuté, et vu que moi j'étais déjà vachement fan de son univers et que je regardais souvent ses lives, ses vidéos, on a discuté, on a fait un Tipeee, un financement participatif, parce que faire un manga quand même, en parallèle d'Allegoria en plus, ça prenait du temps, donc de l'argent. Et le financement a été un succès. Et là, ça fait un an du coup, oui, que j'illustre les aventures de Fifou. Absolument pas dans le même délire qu'Allegoria. Il y a vraiment deux univers très différents, un très humoristique avec un humour un peu caca-pipi, et l'autre, un univers post-apo, dramatique... Donc vraiment, mes semaines, ça peut très bien être le jour et la nuit dans une même journée.
Alors au départ, il voulait en fait que ce soit plusieurs mangaka qui fassent quelques planches comme ça. Et puis, il est complètement tombé fan de votre univers.
C'est ça.
Et de votre dessin. Et du coup, bah, il n'y a que vous qui travaillez.
C'est ça. Alors, au début, il avait en vue une autre collègue. Qui s'appelle Soso, ben c'est son pseudo, sauf qu'elle était un peu jeune, elle n'était pas encore indépendante dans le milieu, et donc elle n'avait pas le temps de s'atteler à un vrai manga. Et donc quand je lui ai proposé vraiment de faire quelque chose de carré, qui retrace bien toute l'aventure, parce que c'était quand même un gros challenge, il m'a dit ok, on voit ce que ça donne, et vu que ça a marché, voilà. Mais après, tous les autres, au niveau de ce youtubeur, on est plusieurs artistes à travailler avec lui. Donc, il y a vraiment, autour de ce projet, il y a vraiment un sentiment qu'on n'est pas seul. On est plus, on va dire, il y a plus d'émulation, vu qu'on a toute la communauté YouTube qui est derrière. Alors qu'à Allegoria, j'ai juste mon éditeur, et le reste doit rester secret, car il ne faut pas spoiler.
Alors, cet après-midi, vous donnez un atelier à partir de 14h à la médiathèque ici, Gambetta, au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que vous allez proposer ? C'est tout public à partir de 8 ans. Est-ce que vous proposez justement une rencontre comme ça autour du métier vraiment de mangaka pour découvrir le métier côté français, on va dire ? Ou bien vous proposez un atelier de pratique, dessin
Alors, ça va plus être de la pratique. On va essayer tous ensemble d'au moins arriver à faire un visage. Souvent, c'est ce que je propose de base, ça plaît beaucoup. Et autour de ce visage, on va essayer plusieurs techniques d'ancrage, pour le coup typique au manga, donc à base de hachures, de pleins, de déliés. Ça, c'est l'épaisseur et comment on appuie sur les traits, le mouvement qu'on leur donne. On va aussi un petit peu discuter évidemment de comment ça se passe tous les jours au travail chez moi, mais ça va être plus autour de discussions un petit peu naturelles pendant qu'on dessine en fait. Ça va être très bon enfant.
Oui, parce que les enfants, les mangaka également.
C'est vrai. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est bien loin de tout ce qu'on peut lire. Je pense notamment au manga Bakuman, qui retrace l'histoire d'un mangaka au Japon. En France, c'est pas pareil, on n'a pas le même système, mais alors surtout, oui, qu'est-ce que c'est fantasmé. Peut-être le seul truc, je dirais, à la rigueur, qui n'est pas trop fantasmé, c'est tout le côté un peu... alors c'est un peu triste à dire, mais c'est le côté un petit peu burn-out, dépression, qu'il peut y avoir autour de ce métier. Peut-être qu'on en parle, mais peut-être pas assez de façon réaliste. Mais en tout cas, c'est une facette qui est réelle. Sinon, tout le reste est extrêmement fantasmé. On n'est pas du tout, à fond tous les jours. Il y a juste des matins où on se lève, on a juste envie d'aller se recoucher, comme tout le monde, en fait. Hein. Mais, mais oui, on va pouvoir parler de tout ça et peut-être leur donner envie de voir le métier sous un autre jour.
Et puis on le rappelle, merci Charlotte Juriot, on le rappelle à nos auditeurs, cet après-midi c'est la rencontre avec l'auteur Julia Thévenot également, à 15h30. Julia Thévenot, autrice en effet de Bord de Terre notamment, qui est blogueuse, qui est assistante d'édition chez Sarbacane. Aurore, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être ?
Non, c'est non. Tout à fait ça. Et du coup, c'est autour d'une rencontre, on va lui poser différentes questions sur ses univers, ses différents livres. Voilà, ça va être une bonne rencontre.
Et une autre rencontre à la médiathèque d'Orléans, cette fois-ci musicale, qui vous sera proposée le 14 octobre. Ça va venir illustrer notre pause musicale. C'est le piano de Giorgi Ligeti. À l'auditorium Marcel Régui le 14 octobre à 15h avec le musicologue et producteur de radio François-Xavier Zimzak qui vous invite à la rencontre de l'œuvre de Giorgi Ligeti qui est un auteur de musique contemporaine, on va dire, du début du siècle. Voilà, donc cette conférence, c'est un préambule au concert de Shisato Taniguchi, deuxième prix Caisse des dépôts du concours international de piano d'Orléans 2022. Et ce concert, il aura lieu dimanche 15 octobre à la salle de l'Institut à 10h45. Alors, ce n'est pas lui qu'on va écouter interpréter Ligeti, mais Murkoff et Vanessa Wagner pour Musica Ricetta. à l'instant, c'était Murkoff et Vanessa Wagner, Musica Ricetta, qui est de Giorgi Ligeti. En effet, vous retrouverez le piano de Giorgi Ligeti par le musicologue et producteur François-Xavier Simzac le 14 octobre prochain. Ici, à la médiathèque centrale, à l'auditorium Marcel Régui. Alors, des choses à voir, à faire, il y en a tout le temps à la médiathèque. On vous a fait une petite sélection de ce que vous allez pouvoir découvrir et pouvoir faire en fait à la médiathèque, notamment autour du rugby. Le rugby s'invite à la médiathèque Maurice Genevoix le 30 septembre, à l'occasion bien sûr de la Coupe du Monde de rugby. Christian Stern et la compagnie Les Footbassons jouent avec l'œuvre de Pierre McCorlan et vous propose en effet une pièce où vous pourrez en fait découvrir une série en fait de lecture en fait de textes autour du rugby. Ensuite, c'est un cycle d'initiation, un cycle d'ateliers par le club d'échecs d'Orléans. Le club d'échecs, c'est comme les mangas, ça obtient la ferveur des plus jeunes aujourd'hui, en fait. Donc, vous sautez sur l'occasion, en effet, les mercredis 4, 11 et 18 octobre pour proposer des ateliers de 10h15 à 11h30. Et c'est une pratique, bien sûr, qui intéresse tous. Vous voulez nous dire quelque chose, Rémi ? J'ai l'impression à propos des échecs.
Oui. Alors du coup, l'espace jeu de société vient d'ouvrir à la médiathèque centrale. Donc c'est pour ça que justement, on a été contacté par le club d'échecs d'Orléans, qui était très volontaire pour venir faire découvrir les échecs à tout le monde. Et du coup, voilà, c'est un espace qu'on a collé un peu à l'espace jeune adulte, justement, on y retourne. Et on a voulu laisser les jeux de société vraiment en libre accès. Donc... il n'y a pas besoin d'être inscrit, il n'y a pas besoin de demander l'autorisation. Les jeux de société sont sur des tables, ils sont au rez-de-chaussée pareil. Et voilà, c'est un peu dans l'idée de faire venir des publics qui seraient intéressés par des nouvelles choses. Ouais.
Peut-être en complétant sur l'ensemble du réseau des médiathèques, hein, c'est quelque chose qui se pratique et qui était plutôt à destination du jeune public, hein, ou en tout cas d'un public familial, mais plutôt orienté jeunesse. L'idée, c'est vraiment de multiplier cette proposition-là sur l'ensemble du réseau. Comme l'a dit Rémi, c'est vraiment un sujet extrêmement fédérateur. Et l'idée de la bibliothèque aujourd'hui, c'est ça, c'est la multiplicité des pratiques.
Vous pourrez également assister à une projection rencontre. Alors ça sera dans le cadre de la Fête de la Science. Chaque année, en effet, la Fête de la Science fait la fête aussi à la médiathèque et propose en effet une série de... Vous vous proposez une série de choses autour de la Fête de la Science, notamment des ateliers de fabrication plastique éco-responsable par la Miette Compagnie. À partir d'objets du quotidien, mais on va en effet réaliser, en fait, fabriquer des choses pour l'habitat, pour des nouveaux outils, des jouets, des choses comme ça. Donc ça, c'est tout public à partir de 8 ans et c'est le 7 octobre. Il y a vraiment un temps fort autour de la Fête de la Science le 7 octobre. Médiathèque Saint-Marceau, Médiathèque Madeleine, à la Médiathèque Maurice Genevoix, Argonne et Charles Péguy. Ce sera le 11 octobre, le mercredi. Et puis le 14 octobre, à la Médiathèque Blossière, à partir de 14h30. Vous proposez également une rencontre projection où vous pourrez voir La Restanza d'Alessandra Coppola, un film belge, italo-belge. Vous est proposé le samedi 7 octobre à 15h et il y aura peut-être une rencontre avec l'autrice ce jour-là. C'est pas peut-être, c'est même sûr. C'est un atelier rencontre, donc on rencontre pas seulement le film, mais son autrice. Toujours dans le cadre des rencontres, vous avez bien sûr les Jeudis Patrimoine, où vous pourrez découvrir les livres d'artistes de Bernard Fouché à l'auditorium Marcel Régui, toujours à Médiathèque Centrale, le 5 octobre prochain. C'est un poète, Bernard Fouché, mais c'est surtout un illustrateur et qui touche à beaucoup de techniques, gravure, aquarelle, bois, bronze, marbre. Voilà, vous pourrez découvrir toutes ces œuvres conservées dans les collections précieuses de la médiathèque. Et puis, il s'est inspiré de divers poèmes, donc vous pourrez également découvrir les poèmes. Voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ce qui vous est proposé. De toute façon, on va revenir, nous, ici, à la médiathèque d'Orléans, en octobre, pour vous raconter tout ce qui s'y passe. Alors, peut-être pas tout, parce que ça prendrait beaucoup plus qu'une heure. Voilà. Alors, moi, j'ai oublié quelque chose de très important. Il y a une autre rencontre musicale. Ça se passera le 21 octobre. Là, ça s'appelle Parlons Musique. Hein, c'est quelque chose que vous proposez assez régulièrement également. Et ce jour-là, ce sera avec Michel Brier, qui est un homme de radio au parcours extraordinaire. Il a débuté avec l'équipe de Salut les copains. Il a exercé ses talents dans d'autres médias, notamment RTL ou BFM ou RMC ou iTélé. Il est passionné de jazz et il dirige une collection pour le label Frémo et Associés. Et il était venu nous voir à la radio. Il nous avait donné des disques. Donc, on va écouter, en effet, un des disques qu'il a produit. Et ce jour-là, en fait, il échangera autour, justement, de cette collection et du jazz. Alors, c'est un album de Johnny Hodges qu'il nous avait offert, en fait, à la radio. On va écouter Mood Indigo tout de suite. Et bah, j'en profite pour vous remercier tous de nous avoir accueillis ici. Merci Charlotte Joriot. On se donne rendez-vous cet après-midi pour l'atelier manga à la médiathèque à partir de 14h. Et puis bah, on écoute Mood Indigo de Johnny Hodges and Duke Ellington Giants. Merci beaucoup. Thank you.